suis donc historien, directeur de recherche au CNRS et à l'IHTP, et ici rue Pouchet depuis 11 ans maintenant. Depuis 11 ans. Et ancien directeur accessoirement de cette vénérable maison. Alors, d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de leur invitation. Je pense que c'est une excellente initiative que ces rendez-vous qui permettent d'avoir quand même un regard sur des recherches différentes, mais qui sont quand même souvent assez proches les unes des autres. Et donc, voilà, là, on m'a demandé de parler, de présenter rapidement, enfin, une vingtaine de minutes, mon dernier ouvrage. Alors, pour beaucoup d'entre vous, ce ne sera pas une grande surprise, puisqu'ils le connaissent un peu. Alors je vais essayer d'en donner les grandes lignes. C'est un ouvrage qui est sorti il y a quelques mois. Et c'est au départ, c'est un recueil d'articles. Enfin oui, au départ, c'est un recueil d'articles que j'ai écrit, on va dire, à peu près sur une décennie depuis que je suis rue Pouchet, justement. Enfin, et donc qui portait sur des sujets divers, on va dire, au départ, et qui avait tout un point commun, bien sûr, qui est l'un des sujets sur lesquels je travaille depuis maintenant presque une trentaine d'années, pour aller vite, la mémoire. En fait, pour être un petit peu plus précis, j'emploie aujourd'hui une expression qui me paraît plus adaptée, qu'on appelle ça des régimes mémoriels. Régime mémoriel qui est une notion, c'est pas encore un concept, mais qui est une façon de dire qu'on s'intéresse à la façon dont les sociétés, en général, ou une société en particulier, ou une société à un moment donné, envisage la place du passé dans son univers intellectuel, culturel, scientifique, etc. Alors le mot régime mémoriel, évidemment, ne vient pas de nulle part. C'est une sorte de sous-ensemble, on va dire, pour dire les choses ainsi, des régimes d'historicité. Régime d'historicité qui est une notion sur laquelle j'ai travaillé dans un précédent livre qui s'appelle « La dernière catastrophe », qui était une mise en histoire de la contemporanéité. Voilà, c'est un sujet un peu différent. Et là, je m'intéresse donc à des régimes mémoriels, c'est-à-dire à l'intérieur du régime d'historicité qui, pour le dire vite, est la façon dont les sociétés, de manière générale, envisagent leur passé, comment ce régime d'historicité peut se décliner ou s'est décliné dans la période contemporaine et voire la période très contemporaine, si on peut dire, le temps présent, depuis une quarantaine d'années, dans un registre très particulier, très spécifique, dont je vais dire quelques mots. Alors, quand je dis un recueil d'articles, l'éditeur qui a beaucoup insisté pour que ce ne soit pas juste une collection d'articles pris un peu partout, mais bon, j'ai essayé de les réécrire et je les ai effectivement entièrement réécrits tous. Je dis ça pour ceux qui auraient peur de dire, parce qu'il faut que vous l'achetez bien sûr, enfin, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est pas juste une collection d'articles comme on fait, bon, on fait tout ça, enfin, je l'ai déjà fait dans d'autres circonstances, mais j'ai voulu leur donner une unité. Et à ma grande surprise, c'est toujours agréable, c'est pas toujours le cas hein, dans un parcours de chercheur, mais à ma grande surprise, j'ai pas eu trop de mal. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que malgré tout, même si j'ai été ici ou là, même si ce sont des articles qui sont des communications de colloques ou des articles sur commande ou des choses que j'ai pu faire directement, il y avait une certaine unité, bien sûr. Voilà. Et c'est cette unité que j'essaie de mettre en valeur dans le livre, qui est construit de manière assez classique autour de trois grands ensembles. Le premier est un ensemble que j'appellerais de manière un peu pompeuse théorique, c'est-à-dire sur lequel je m'interroge, dans lequel je m'interroge sur quelques problèmes théoriques. J'en prends juste rapidement quelques-uns. Pourquoi le mot mémoire aujourd'hui a-t-il subsumé, pour employer un terme savant, d'autres types de rapports au passé, comme l'histoire ou la tradition? C'est un des choses qui me préoccupe depuis très longtemps. La tradition, c'est le maintien de valeurs universelles, en tous les cas, qui prétendent d'une certaine manière à l'éternité ou à l'intemporalité. L'histoire est une approche cognitive, savante, des traces du passé. La mémoire est aujourd'hui une sorte d'injonction devenue à la fois politique et culturelle de l'obligation du souvenir. Voilà. Ce sont trois modalités de rapport au passé qui peuvent coexister, bien sûr, qui sont pas opposées, mais dans lesquelles la mémoire a pris une place dans les sociétés contemporaines considérable. Voilà. Ça, c'est un des objets du livre. Sur le plan théorique, bon, j'ai un article sur la psychanalyse dont je ne parlerai pas, je pourrais en dire un mot, puisque je me suis toujours un peu intéressé à la psychanalyse, et on ne travaille pas sur la mémoire sans se poser des questions de type psychologique. C'est juste aussi un petit rappel pour les historiens, pour d'autres sciences. C'est Marc Bloch qui disait « les faits historiques sont des faits psychologiques par essence ». Donc voilà, la psychologie qui n'a pas toujours bonne presse dans nos disciplines, pour des tas de bonnes ou de mauvaises raisons, est quand même un élément indispensable pour comprendre les comportements, les réactions d'individus ou de groupes, etc. Et on ne travaille pas sur la maman, encore une fois, sans s'intéresser à cette question-là. Et moi, je l'ai abordé par la psychanalyse, parce que c'est ma culture. Voilà. Alors, il y a un problème théorique sur lequel c'est le genre de choses qu'on entend. On n'a pas parlé de la guerre d'Algérie à tel ou tel moment. Bon, alors sans entrer dans le détail de la véracité, ce que je fais dans le livre, mais de la proposition, est-ce que c'est vrai ou pas qu'on n'en a pas parlé ? Ça, c'est l'histoire, on va dire, presque positive. Il s'agit de dire est-ce que c'est vrai ou pas qu'il n'y a aucune trace de tel et tel événement dans les années qui suivent l'événement en question. Déjà, ça pose un certain nombre de problèmes pratiques, théoriques, comme un historien travaille sur quelque chose qui n'est pas. Sinon, en partant du principe que ce qui n'est pas aurait dû être. Donc déjà, on est dans une forme de téléologie, dans une forme de projection qui pose des questions sur la façon dont l'historien se positionne par rapport au sujet et qui m'emmène tout de suite sur un terrain qui nous est familier aux historiens du temps présent, c'est qu'on ne travaille pas sur ces sujets sans une dimension réflexive. C'est-à-dire que, mais ça n'étonnera évidemment ni les politistes ni les sociologues, qui ont plus l'habitude que nous, mais ça veut dire qu'on ne travaille pas sur la mémoire sans se poser de questions sur la place que l'historien occupe dans cet ensemble. Et il se trouve que moi, par les sujets sur lesquels j'ai travaillé, la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy et tout ça, j'ai été, enfin, nolens volens, enfin, j'y ai participé volontairement aussi, hein, un acteur de tous les débats autour de la mémoire contemporaine en France. Voilà. Donc, j'essaie de mettre un petit peu de distance par rapport à cette pratique en essayant de l'analyser. Voilà. Donc, il y a une première partie qui est, on va dire, un peu théorique. Il y a une deuxième partie qui est axée sur la France, sur les questions mémorielles en France, et Dieu sait s'il y a de quoi dire. Je ne parle pas uniquement de Vichy, bon, même si évidemment j'y reviens parce que ce sont des choses sur lesquelles j'ai une certaine compétence, c'est-à-dire j'ai beaucoup travaillé. Donc j'essaie de m'interroger sur des notions dont j'ai été en partie l'initiateur, comme la question du résistentialisme, comme la question du négationnisme, comme la question du poids des souvenirs de Vichy dans la société française, avec une relecture à la fois critique et autocritique. Autocritique au sens où je revisite ces questions-là. D'abord parce que j'avais envie de le faire, puis parce que je l'ai fait. Mon premier livre sur la mémoire de Vichy remonte à quand même à 1987, donc il s'est passé quand même beaucoup de choses depuis. Et puis surtout parce que ces questions aujourd'hui font partie des programmes scolaires. C'est quand même très important, c'est-à-dire que la question de la mémoire en général, et surtout de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre d'Algérie, font partie intégrante des programmes de terminale, et donc servent de façon claire, officielle, politique, affichée, à la formation du citoyen. Et donc il est important que les enseignants puissent manipuler des notions qui soient un tant soit peu solides. Et j'ai voulu revenir sur un certain nombre de clichés qu'on m'attribue, dont je ne suis pas l'auteur, mais qui font aujourd'hui vulgate et qui font débat. J'en prends un qui est vraiment presque ridicule, mais les Français se seraient vus tous résistants pendant 30 ans, puis se sont découverts tous collabos en 70. Bon, je n'ai jamais écrit ce genre de choses, mais c'est une façon de revenir aussi sur les usages de mythes populaires, la façon dont des constructions, y compris d'historiens, peuvent devenir des nouveaux mythes populaires qui remplacent les précédents. Voilà. C'est une partie donc sur la France. Et la partie auquel je tiens le plus, qui est finalement qui était la plus difficile pour moi, c'est un élargissement de la perspective, puisque ce sont, j'ai trois articles qui ne portent plus du tout sur la France, qui portent sur la question de la mémoire à l'échelle de l'Europe, puisqu'il y a un problème, il y a une question sur est-ce que l'Europe en tant qu'unité politique, je parle surtout de l'Union européenne, mais aussi de l'Europe en général, a cherché et a établi une politique de mémoire, des commémorations spécifiques, des institutions spécifiques pour entretenir le passé. Et je passe même à une autre échelle, c'est quelque chose que j'avais esquissé il y a quelques années dans un article assez modeste, qui était en fait une présentation d'un dossier de la revue 20e siècle sur des questions de mémoire touchant à la fois l'Europe et l'Asie. J'essaie de m'attaquer à une notion que j'appelle la mondialisation de la mémoire, ou comment, sur plusieurs continents, dans des contextes historiographiques, politiques, culturels extrêmement différents, et en relation avec des passés et des histoires qui souvent n'ont aucun rapport les unes avec les autres, on voit se développer des formes standardisées de rapport au passé. Je prends quelques exemples simples pour illustrer le propos. La multiplication depuis 30 ans des commissions de vérité et réconciliation dans les périodes de transition. Dans un domaine qui n'a rien à voir, mais qui est du même ordre, la standardisation de l'esthétique mémorielle, c'est-à-dire, je prends juste deux exemples, bon, auxquelles j'ai pu assister, les commémorations du génocide des Tutsis à Kigali en 2014 où j'étais, et quelques mois plus tard, la commémoration du débarquement en France du 6 juin. On est dans deux univers historiques qui n'ont évidemment aucun rapport, mais l'esthétique des commémorations était entièrement standardisée, de même que la muséographie est standardisée. Il y a une sorte de, comment dire, de standardisation, de mondialisation de ces phénomènes-là. Alors, je les prends là par quelques exemples, mais qui interrogent, parce qu'elles signifient, si c'est vrai, bien sûr, c'est une hypothèse, je l'affirme pas. Ça signifie qu'on est entré à l'échelle mondiale dans un autre type de rapport au passé, et que donc les questions qui se posent ici ou là, par exemple en France à propos de Vichy, ou en Europe à propos du nazisme, ou d'autres, ou sur le colonialisme, ne sont pas des questions qui sont liées aux événements d'origine, ceux dont on se souvient ou dont il faudrait se souvenir, mais doivent être abordés de manière horizontale, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, il y a un rapport au passé qui a changé et qui mérite en tant que tel une étude. Voilà, c'est un peu ça mon hypothèse. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Enfin, je pourrais répondre aux questions. Il me reste encore quoi, 5 minutes, ça va à peu près. Alors, bon, je vous ai décrit un petit peu l'objet du livre. Bon, je vais entrer un peu plus dans le détail. Alors, je vais vous donner quelques idées maîtresses, bon, qui sont des idées que j'ai, qui m'ont servi de guide, qui forment pas une thèse à proprement parler, mais bon, qui forment quand même un environnement, une configuration problématique qui est la mienne, enfin, et qui peut évidemment être discutée, voire réfutée. Alors, je donne quelques-uns. D'abord, je constate, dans ce que j'appelle la mémoire contemporaine, donc depuis une trentaine d'années, on peut discuter de la chronologie, ça dépend des pays, le passé est devenu un problème, d'où le titre, Face au passé. Face au passé, ça paraît un titre banal. Bon, face au passé, bon, quand on y réfléchit 30 secondes, c'est pas si banal que ça. En principe, le passé est derrière. Quand on dit face au passé, c'est qu'on a mis le passé devant. Je prends des images très simples. Si on met le passé devant, c'est que le passé, dans la marche des sociétés ou d'un individu, devient un obstacle. C'est pas un legs qu'on peut éventuellement traîner, le fardeau du passé, the burden of the past, mais c'est un obstacle qu'il faut surmonter. Déjà, il y a une perspective. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que partout, c'est comme ça. Je prends un exemple qui date d'il y a une semaine. Le président Obama s'est rendu, comme vous le savez, au mémorial d'Hiroshima, où il a fait un discours qui a duré à peine 20 minutes. Le président Obama parle d'histoire à peu près une fois tous les 4 ans. Enfin, le président des États-Unis en général, et en particulier Obama, parle très peu d'histoire, par comparaison à notre président qui en parle à peu près tous les jours. Bon, et là, il a une phrase qui est assez extraordinaire, parce que je venais de sortir le livre. Il faut regarder directement dans les yeux de l'histoire. Alors, je ne me rappelle plus l'expression en anglais. We have to look directly into the eyes of history. C'est vraiment, je ne pouvais pas trouver meilleure démonstration de ce que j'essaye de dire dans le livre. Le passé est un problème qu'il faut surmonter. Enfin, il y a toutes les expressions, faire face au passé, surmonter le passé. Les Allemands ont cette expression, bon, qui est très connue, la Vergangenheitsbewältigung, c'est-à-dire la maîtrise du passé. Bref, le passé est un problème. Donc déjà, ça mérite un petit peu de discussion, puisque le passé n'a pas toujours été un problème dans l'histoire des sociétés. Même si on prend l'histoire du XXe siècle, sans remonter de très loin dans le temps, c'était le présent qui était un problème, c'était le futur qui était un problème. Le passé était un legs. Il y avait une sorte de passivité à l'égard du passé qu'il fallait plus ou moins faire avec. Aujourd'hui, on est dans l'idée que le passé est un problème et que le passé se répare. Ça, c'est fondamental. Le passé se répare, c'est-à-dire que le présent, nous, aujourd'hui, nous, un président de la République, une association, enfin, peu importe ici les acteurs, ont la capacité de changer le passé. Alors, non pas le passé tel qu'il a été, hein, bien sûr, le passé tel qu'il a été, nous savons, nous, historiens, qu'il n'a jamais été, donc que ça n'existe pas. Mais en même temps, bon, il s'est quand même passé quelque chose, ce quelque chose est très difficile à faire bouger, et pourtant, il y a cette illusion-là. Toutes les politiques de mémoire contemporaines, partout dans le monde, repose sur cette idée absolument fondamentale qu'on peut réparer. Alors sinon le passé, bien sûr, les séquelles, les conséquences, l'interprétation qu'on en fait, etc., etc. Voilà. Obama va devant le mémorial d'Hiroshima. C'est un événement considérable. Hein. Il s'arrête au bord de tout, enfin, ceux qui attendaient des excuses qu'il ne pouvait de toute manière pas formuler. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin d'une politique de réparation. Son geste est un geste de réparation. non pas d'excuses au sens fort du terme, parce qu'il y a des politiques d'excuses qui fait partie justement des répertoires d'action de la politique internationale, mais au moins de dire voilà, en gros, on n'aurait pas dû, voilà, on aurait dû faire autrement, enfin bon, même s'il le dit à mot couvert. Ça c'est un élément. Deuxième élément, rassurez-vous, il n'y en a pas beaucoup. La deuxième élément, c'est que dans cet esprit-là, ce qu'on appelle la mémoire, c'est-à-dire la nécessité de se souvenir, la condamnation de toute forme d'oubli, le fait, par exemple, que des procédures ancestrales d'amnistie, de pardon, qui étaient, quoi qu'on en pense, une des formes habituelles de gestion du passé dans des sociétés qui avaient connu une guerre civile, etc., sont devenues aujourd'hui condamnables, condamnées, même s'il y a débat, ça marche pas partout, évidemment, il y a de très fortes résistances. Mais la notion de souvenir, d'inscrire le souvenir immédiatement après l'événement dans un espace fait partie aujourd'hui des choses qui nous paraissent évidentes. Le 14 novembre, j'habite le 11e arrondissement, le 14 ou 15 novembre, il y avait déjà partout des petits mémoriaux, des ex-voto, des photos, des choses comme ça. Ça c'est un premier point. Dans les deux mois qui ont suivi, les archives municipales de Paris ont pris l'ensemble et les ont, retirées pour les conserver, les cataloguer et en faire une trace. Ça, c'est quand même... Alors, ça s'est fait dans le passé, bien sûr, mais jamais avec cette proximité avec l'événement. Donc, c'est ça qui est une des nouveautés. Et donc, ça, c'est ce qu'on va appeler la mémoire, c'est une forme de régime mémoriel qu'on voit partout dans le monde, et la mémoire, de ce point de vue-là, est devenue une valeur. Quand je dis une valeur, c'est-à-dire que c'est même un marqueur démocratique. Pour entrer dans l'Union européenne, il fallait, par exemple, avoir montré ou accepté que le souvenir de la Shoah devienne un élément essentiel de la politique mémorielle de chaque pays. Je prends un autre exemple, parce que là, c'est la Shoah. Une directive, enfin vous savez qu'il y a un débat par exemple sur la pénalisation de la négation du génocide arménien, sur le modèle de la négation des crimes commis par le Troisième Reich, pour appeler la formule consacrée. C'est pas un débat uniquement français. Ce débat qui est bloqué à l'heure actuelle, je sais plus où, entre le Sénat et l'Assemblée nationale, est à l'origine une directive des ministres de la justice de l'Union européenne. Et donc c'est vraiment, ce n'est pas quelque chose qui vient d'un pays, qui vient d'une conception européenne que l'on a de la nécessité d'entretenir le souvenir, voire plus, puisque là il s'agit de non seulement de réparation, mais de pénaliser ceux qui en nient l'existence. Donc c'est un phénomène qui se fait à l'échelle européenne, et de ce point de vue-là, de mon point de vue en tous les cas, et je reprends d'ailleurs des idées d'autres historiens, je ne suis pas le premier à le dire, la mémoire est devenue véritablement un marqueur démocratique. Je prends l'exemple de la Colombie, par exemple, dans le livre, qui, pour moi, m'a fasciné avec le fait qu'à l'heure actuelle, la discussion sur la sortie de ce qu'ils appellent la violence, enfin, la sortie, en gros, d'une guerre civile, entre le gouvernement, les FARC, etc., se fait en plaçant au milieu des négociateurs, enfin, pas au milieu, mais avec les autres négociateurs, et tout ce qui peut se négocier à ce moment-là dans un pays comme la Colombie, eh bien, il y a la question de l'histoire. Quelle sera la place de l'histoire? Quel sera le musée qu'on va construire pour raconter cette histoire au grand public? C'est absolument fascinant. C'est-à-dire, c'est un exemple, à mon avis, unique. C'est un cas extrême où comment va-t-on raconter l'histoire de ce qui vient de se passer fait partie de la sortie de guerre. Il n'y avait pas d'historien au moment des accords d'Évian, enfin, sauf erreur. Ils sont venus après, assez vite, mais ils sont pas aux accords. Là, ils y sont. Voilà, ouais, je prends des exemples simples pour illustrer mon propos. Voilà. Donc la mémoire comme valeur. Et puis bon, alors je le dis rapidement, mais c'est évidemment un des cœurs du livre. Je pars du principe que, si je veux expliquer ce phénomène, je pars du principe que c'est la mémoire de la Shoah, la mémoire de l'extermination des Juifs et l'anamnèse qui s'est produite en gros dans les années 60-70. On peut discuter de la chronologie. A servi de matrice, c'est-à-dire au départ c'était quelque chose qui était perçu comme un phénomène sui generis, qui était lié à la nature même de l'événement, du génocide des Juifs, et dont on s'est rendu compte avec le temps que c'était en train d'entrer en résonance avec donc un nouveau régime d'historicité, avec des nouvelles manières d'affronter le passé. Et j'explique, bon, je n'ai pas le temps de développer, c'est un phénomène qui est d'abord parti d'Allemagne, parce que l'Allemagne a été contrainte de reconnaître ses torts, c'est elle qui a inventé nolens volens, encore une fois, elle n'a pas le choix, hein. Ce qu'on appelle la mémoire négative. Alors, mémoire négative, c'est un concept qui vient de Kozelek. Mémoire négative, ça veut dire qu'un pays va célébrer non seulement un événement négatif, un génocide par exemple, mais il va installer une commémoration qui va commémorer sa propre responsabilité. Ce qui est l'air de rien, enfin, on est habitué à ça aujourd'hui, mais c'est quand même une nouveauté dans l'histoire. Lorsque Mitterrand accepte, sous la pression, en 1993, la commémoration du Veldiv, qui va être ensuite l'occasion pour Jacques Chirac de faire son fameux discours où il reconnaît les responsabilités de la France, c'est la première fois dans l'histoire de France qu'on va créer une commémoration négative. C'est la première fois. Toutes les commémorations de l'histoire de France sont des commémorations soit positives, qui commémorent une bataille, l'héroïsme, le sacrifice, le martyr des combattants, mais jamais la responsabilité propre de la nation. C'est même pas de l'État en plus, hein. Enfin bon, je vais pas entrer dans le détail, c'est de la nation. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau et qu'on voit évidemment un peu partout se développer dans le monde, encore une fois avec des résistances. Je ne dis pas que tout ça se fait dans la joie et la bonne humeur, bien sûr, mais voilà, c'est cette nouveauté, alors qui est peut-être aussi la conséquence du siècle de violence. Bon, moi, j'aime pas beaucoup ces notions, parce que le XXe siècle, bon, il était violent, bien sûr. Enfin, si on regarde un peu dans le passé, c'est pas la première fois que dans l'histoire, on a des phénomènes de violence de masse, hein. Ne serait-ce que le XVIIe siècle, par exemple, avec les guerres de religion. Bon. Mais voilà, on a changé notre rapport au passé. Je vois le temps qui tourne, là. La dernière chose, c'est parmi les idées que je défends, à propos de la mondialisation de la mémoire, c'est de dire que toute une série de processus qui ont été mis en place dans ces 30 ou 40 dernières années. J'avais cité le cas des comités vérité et réconciliation. Il y a le cas de la justice internationale ou de ce qu'on appelle la justice ad hoc, par exemple la création de tribunaux pénaux pour le Rwanda ou pour l'ex-Yougoslavie. L'émergence de nouveaux concepts juridiques qui ont eu une importance, qui ont des effets à terme absolument considérables, par exemple l'imprescriptibilité, qui a complètement changé notre rapport au temps, au moins dans les pays qui ne la connaissaient pas cette notion dans leur pratique juridique, ce qui est le cas de la plupart des pays européens. C'est pas le cas des États-Unis, mais c'est le cas de la plupart des pays européens. Et puis une autre notion, bon, qui est un peu technique, mais qui est très importante, ce qu'on appelle la compétence universelle, c'est-à-dire la faculté de pouvoir juger n'importe quel crime, enfin politique, de nature internationale, n'importe où. Rappelez-vous le cas de Pinochet, bien sûr, c'est le cas le plus emblématique. Ce qui a, alors évidemment, a des conséquences judiciaires, bien sûr, a des conséquences politiques, mais aussi des conséquences par rapport à ce qui m'intéresse moi. Ça veut dire que, d'une certaine manière, les pays aujourd'hui qui se trouvent dans ce genre de situation peuvent être dépossédés, en partie ou complètement, de l'écriture de leur propre histoire. Parce que cette histoire va aussi s'écrire dans ces tribunaux, va aussi s'écrire à une échelle internationale et avec une pression internationale qui obéit à des enjeux qui sont évidemment très différents de ce qu'on peut observer à l'échelle d'un pays de manière interne. Voilà. Pour illustrer mon propos, je prends des exemples un peu outrés, enfin un peu presque caricaturaux. Bon, Pinochet finalement est mort, sauf erreur dans son lit. Bon. Donc la question de l'oubli, de l'amnistie a finalement pu jouer malgré tout. Enfin, il y a eu des résistances, mais il y a eu cette tentative. Au moins, il y a eu cette tentative. Bon. Est-ce qu'on imagine, en vertu de la compétence universelle ou de l'imprescriptibilité, le maréchal Philippe Pétain, qui est en Sigmaringen à la fin de la guerre, qui essaie de s'enfuir, qui rejoint la Suisse, qui veut absolument revenir en France pour être jugé. De Gaulle ne voulait pas qu'il vienne, enfin, moi, je ne vais pas entrer dans l'anecdote. Imaginons qu'il arrive à ne pas rentrer en France et qu'il soit jugé à Santiago du Chili. Bon, c'est absurde, mon image est absurde, mais c'est aussi un peu ce qui se serait passé si Pinochet avait été jugé à Londres. Puisque ça a été à un moment l'une des possibilités, puisque le juge Garçon, espagnol, utilisait la compétence universelle. Bon, ça n'a pas marché, soit, mais ça peut marcher, et ça va probablement marcher dans les années qui viennent. Donc voilà, tout ça fait qu'on a quand même un autre rapport au passé, un autre rapport à l'histoire nationale, ce qui rend parfois, de mon point de vue, un peu obsolète nos débats très franco-français sur il faut défendre l'histoire nationale, mais l'histoire nationale n'existe plus, enfin... Bon, je vais très vite. Et en tous les cas, elle n'a plus du tout, qu'on le veuille ou pas, la place qu'elle pouvait avoir il y a encore une quarantaine d'années. Bon, voilà, ça parle à peu près de tout ça. J'étais un peu long, excusez-moi. Bon, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre de manière péremptoire. Ce qui est clair, c'est que l'ampleur des événements qui sont commémorés, l'ampleur en termes de victimes, en termes de conséquences, on parle de génocide, hein, on ne parle pas juste de petits conflits. Bon, qu'il laisse des traces, et des traces durables, après tout, c'est presque normal. C'est pas, en soi, ce n'est pas étonnant. Bon, il y a encore pas si longtemps, je disais, en ce qui concerne par exemple la Shoah, bon, la Shoah est un événement singulier, une sans pareil, enfin, j'ai tenu ce discours très longtemps, et je ne le tiens plus aujourd'hui, mais bon, et je concluais... Puisque l'événement a été aussi singulier, il n'est pas surprenant que son souvenir le soit. Voilà, c'est une façon... Ça avait l'air d'être un peu du bon sens, mais ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? D'abord parce que l'événement n'est pas si singulier que ça. Bon, ça c'est une autre histoire. Je me suis intéressé à la question du Rwanda, où j'ai effectué deux voyages et où j'ai découvert d'autres formes de singularité génocidaire qui n'existent pas, par exemple, ou très peu, ou de manière marginale, dans l'extermination des Juifs. Et donc on a une toute autre approche de ces questions-là. Et même s'il y a des emprunts réciproques, quand vous êtes au Rwanda, les emprunts à la mémoire de la Shoah sont évidents, sont explicites. Il ne faut pas des heures de recherche pour les trouver, mais ça ne suffit pas. Donc il y a d'autres problèmes. Alors j'ai beaucoup de mal à expliquer le pourquoi. Hein, c'est toujours un historien. Mais, ces éléments, on les retrouve par exemple dans le passage de la commémoration héroïque à la commémoration victimaire. Alors là aussi, c'est partout. La figure du héros a été, supplantée par la figure victimaire, parfois en célébrant les mêmes personnages. Hein, je donne des exemples, même pour la guerre d'Algérie, par exemple, ça m'intéresse de voir comment une même personne peut être une héroïne, une victime, par exemple, de la torture, combattante du FLN, comment elle s'appelle? Oui, voilà, c'est ça. Elle peut être à la fois une... Je prends un autre exemple, celle qui avait porté plainte dans les années 2000, là, Iggy Larry. Voilà. Comment elle peut être, dans les années qui sont... Enfin, les années de guerre, bien sûr, les années qui suivent la guerre, une combattante, une héroïne, une martyre de la cause, et comment elle devient... C'est pas de sa faute, hein, c'est pas... Mais comment elle devient, dans un régime mémoriel complètement différent, une victime qui va porter plainte auprès d'un tribunal. Et elle va porter plainte, même pas pour crime contre l'humanité, parce que c'est pas possible, mais pour... on est dans du délit. Enfin, vous voyez, on est... Le passage de la mémoire héroïque à la mémoire victimaire est quelque chose qui est très, très important. Alors, ce qui est fascinant, c'est que c'est partout. Je prends un autre exemple sur la Shoah. L'érection du grand mémorial de la Shoah en Israël, Yad Vashem... Yad Vashem, dès l'origine, s'appelle le monument aux héros et aux victimes et aux martyrs. C'est-à-dire l'accent sur lequel on met, et pourtant globalement dans l'extermination des Juifs, il y a beaucoup plus de victimes que de combattants par la nature même des choses. Hein. Et pourtant, on va inciter sur cette dimension-là. Or, ce qui ressort aujourd'hui, on le voit, il suffit de regarder les discours, bon, les pratiques associatives et autres, ce qui est ce sur quoi on met l'accent, c'est la victime. Pourquoi ? Parce que qui dit victime, enfin, si je veux entrer un peu dans le détail, une victime, ce n'est pas juste une victime de l'histoire. Une victime, d'abord, c'est une catégorie. Une catégorie juridique, c'est une catégorie, enfin, il y a différents types de victimes. Qui dit victime dit définition juridico-politique de la personne en question. Vous avez été victime de quoi, quand, à quel moment, etc. Ça signifie donc une forme de reconnaissance. Dès lors qu'on est une victime dans les sociétés, la plupart des sociétés démocratiques, en tous les cas contemporaines, signifie réparation, et pas réparation symbolique. Réparation au sens matériel du terme, par exemple. Dès lors que l'État français... En France, l'État a été reconnu responsable des crimes commis par le régime de Vichy. Dès lors qu'on accepte, c'est le Conseil d'État qui l'a décidé ainsi, qu'il y a une continuité, la continuité de l'État entre le régime de Vichy, qui était supposé dans la vision de De Gaulle être un régime de non-droit, avec la République, eh ben la République paye. C'est tout. Vous payez, nous payons, par exemple, les dommages de Maurice Papon, condamné pour crime contre l'humanité, la moitié. On paye la moitié. Pourquoi ? Parce que l'État a été reconnu responsable par une décision du Conseil d'État des crimes commis par Maurice Papon, puisqu'il était fonctionnaire. Ça a l'air de rien, mais il a fallu 50 ans de débat pour en arriver là. Bon, voilà. Donc, qui dit victime dit reconnaissance du statut de victime et dit réparation. Et donc, bien entendu, les conséquences et la manière d'aborder les questions sont très différentes. Parce que dans ce cas-là, enfin, je vais le dire de manière un peu vulgaire, tout le monde va être victime. Ça ne veut pas dire que tout le monde n'y a pas droit. Bon, bien sûr, la victimisation est parfois nécessaire. Mais on est plus enclin aujourd'hui à vouloir réclamer un statut de victime parce qu'il implique ipso facto un statut de reconnaissance, ce qui veut dire qu'il y a quand même une résistance pour que cette reconnaissance ait lieu, bien sûr, plutôt qu'à en rester au statut de héros. Enfin, oui, c'est, bon, je dis ça un peu rapidement, mais... je pourrais poursuivre. Alors, ma conclusion, oui, j'en ai une, mais bon, c'est une conclusion à la fois historienne et citoyenne. Enfin, je m'interroge, oui. D'abord, je m'interroge sur l'excès mémoriel. Mais ça, c'est pas la première fois. Hein. Ça fait 20 ans que je le fais, donc c'est pas nouveau. Là, j'avais un bon exemple, parce que avec François Hollande, bon, dans une conjoncture particulière qui est la commémoration des deux guerres, on a fait exploser le compteur. C'est-à-dire que si vous prenez les discours, les déplacements du président de la République sur les deux dernières années, on arrive sur les deux guerres, sans parler des petits à côté, à peu près 50 interventions. Je parlais d'Obama, Obama il en fait une. Et ça, le monde entier en parle. Hollande, c'est toutes les semaines. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais enfin, si, quand même, ça pose un problème sur la portée de ces gestes-là. Et, bon, alors ça, c'est, on va dire, bon, ça, c'est une critique banale. La dernière chose qui me paraît beaucoup plus importante, parce que ça a des conséquences sur la vie des sociétés, notamment en Europe, sur d'autres questions, c'est jusqu'à quand peut-on faire porter le fardeau de ce passé-là sur les prochaines générations? Moi, j'appartiens à une génération, bon, j'ai 61 ans, qui est née après la guerre, mais qui a côtoyé, par exemple, les victimes de la Seconde Guerre mondiale. Ça a été je dirais presque mon quotidien. En tous les cas, lorsque l'IHTP a été créé, on fréquentait les chefs de la résistance tous les jours. Ils étaient là quasiment tous les jours. Bon, donc on est ce que j'appelle dans un autre livre les témoins des témoins, ou des premiers témoins. Bon, la question, c'est jusqu'à quand cette mémoire, qui est fondamentalement sur le mode de la culpabilité, peut-elle être acceptée par les nouvelles générations et dans le nouveau contexte, dans un nouveau contexte international, social, politique et autre. Il suffit de voir ce qui se passe à l'heure actuelle en Pologne, en Hongrie ou en Croatie. Hein, en Croatie, vous avez un ministre révisionniste qui réhabilite les Oustachis, ministre de la Culture, qui a été nommé au gouvernement. En Pologne, j'ai fait partie du grand musée sur la Seconde Guerre mondiale qui devait ouvrir ses portes cette année. Le nouveau gouvernement, on va dire pour être gentil conservateur, a décidé d'arrêter ce musée, de le transformer en un autre musée, bon, qui célèbre l'héroïsme du peuple polonais. Bon, c'est très bien, ils ont été héros. Mais, voilà. Donc, il y a une sorte de backlash, de retour de bâton, qui montre que ce que j'appelle l'émergence de la mémoire comme valeur est un moment dans l'histoire des sociétés contemporaines, mais rien n'est dit que ce moment-là va durer. Donc c'est un peu pour ça aussi que je fais ce livre, pour dire, bon, si on s'arrête 30 secondes sur ces questions-là, l'avenir n'est écrit nulle part. Et pourquoi c'est important? Parce que si on touche à ça, enfin plus exactement, lorsqu'on touche à ça, ça veut dire qu'on a déjà touché à autre chose. Lorsqu'on touche au souvenir de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on touche au souvenir de la Shoah, lorsqu'on touche au souvenir des victimes du nazisme ou des collaborateurs, ça veut dire qu'on a déjà, franchi d'autres transgressions politiques. Et là, encore une fois, il suffit de voir ce qui se passe dans quelques pays européens, en espérant que ce ne soit pas la règle et qu'on revienne en arrière. Mais là, je pense qu'on a manqué aussi une forme de réflexion. On a cru que, par exemple, que célébrer la Shoah à l'échelle européenne et mondiale allait de soi. Ben non, ça va pas de soi. Et non, ça ne va pas de soi. C'est pas parce que c'est la Shoah, ça ne va pas de soi, parce qu'il n'y a aucune raison de faire... J'aurais pas dit ça il y a 20 ans, hein, mais... Enfin, il y a 25 ans. Il y a 20 ans, je disais, mais 25 ans, non. Il n'y a aucune raison de faire de cet événement-là une exception mondiale. Même si elle a eu un impact en termes de... Comment dire, si le régime mémoriel qui a été la conséquence de la Shoah a fait des petits, bien sûr, a suscité des mouvements de mimétisme, on va dire.
Bon, d'après ce que vous venez de dire, quel avis portez-vous sur cette extension de la mémoire vers des événements très lointains, par exemple le cas de la traite des descendants de l'esclavage?
Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Je veux dire que j'ai le souvenir d'une discussion, alors c'était avec, je ne sais plus, André Santini, qui est maire d'Issy-les-Moulineaux, c'était à propos des Arméniens. Bon, les Arméniens, c'est plus... Et dans une discussion, c'était, c'était pas public. Ben, on l'a fait pour les Juifs, on va le faire pour les Arméniens. Bon, ben, on l'a fait pour les Arméniens, on va le faire pour les esclaves. On l'a fait pour les esclaves, on va le faire... Bon. Il y a un manque... Alors, évidemment, comme ça, vu rapidement, pourquoi pas, bien sûr, ça tomberait presque sous le sens. Sauf que ça pose quand même quelques problèmes sur lesquels on ne s'est pas attardé. D'abord, est-ce que la distance temporelle joue ou pas? Alors c'est banal, mais pour un historien, ça joue quand même un peu. C'est-à-dire, des souvenirs, bon, je reviens du Rwanda, j'étais au Rwanda il y a 3 semaines. Bon, ça s'est passé il y a 22 ans. Les 22 ans, les souvenirs sont vous les touchez du doigt, comme dans n'importe quelle autre situation historique ou des événements de ce type, même au Chili, je suppose. Bon, partout où on est encore dans des situations, on va dire, récentes, on touche ces problèmes du doigt. La Shoah, on le voit bien. Pourtant, la Shoah, ça fait 70 ans. Donc, alors, du coup, il y a une question à laquelle je ne sais pas répondre. Quelle est la bonne distance? À partir de quel moment peut-on considérer, un, qu'un événement est suffisamment lointain pour estimer qu'il n'y ait pas besoin de cette forme de reconnaissance ou de commémoration? En tous les cas, pas sur le même modèle, comme la loi Taubira, que je n'aime pas, parce que je trouve que c'est une loi absurde sur le plan intellectuel, totalement absurde sur le plan intellectuel. Je ne nie pas ses bonnes intentions, mais sur le plan intellectuel, de vouloir identifier la traite uniquement occidentale à une période de l'histoire en laissant tout le reste de côté me paraît une absurdité historique. Bon, voilà. Mais ça, encore une fois, ça ne répond pas à la question. C'est quoi la bonne distance? Et puis il y a une autre question à laquelle je ne sais pas répondre, qui est une question qui est de l'ordre de la psychologie, de l'anthropologie. Je n'ai pas à décider, moi, tout seul dans mon coin, que les séquelles de l'esclavage auraient disparu parce que nous sommes 200 ans après. J'en sais rien. Non seulement j'en sais rien, mais je pressens que c'est un peu vrai aussi. Donc, je suis très prudent là-dessus. Il n'y a pas de bonne distance. Là où il y a problème, c'est que dès lors qu'on fait ça, il n'y a aucune limite rationnelle. Tout événement historique de type négatif entre guillemets, ou qui un grand crime de masse, qui nécessiterait reconnaissance, réparation, y compris des siècles après, et ben dans l'histoire, il y a le choix. Donc, et là, on va entrer dans une sorte. Bon, on est entré déjà dans une compétition mémorielle depuis fort longtemps, hein, depuis quasiment les années 80 avec le procès Barbie, mais on va entrer dans des compétitions culturelles, dans de type culturel, enfin de type religieux, enfin bon, voilà. Je m'arrête là parce qu'après, c'est plus l'historien qui va parler, c'est plutôt le citoyen. Mais je pense qu'il y a un vrai problème. Problème qui n'était pas perceptible lorsque le phénomène a commencé, parce que la Shoah, le souvenir de la Shoah est revenu avec une telle puissance, notamment, enfin, surtout en Europe. La question de la singularité a été perçue avec une telle intensité qu'on n'a pas pu, enfin, il n'y avait pas de possibilité de freiner le mouvement. Après, lorsque ce mouvement s'est étendu, avec une bonne dizaine d'années de décalage, soit à d'autres événements, soit à d'autres aires géographiques, et à d'autres aires géographiques, eh ben, il n'y avait pas d'argument pour dire non, il ne faut pas. Vous voyez, l'argument moral ne peut pas fonctionner. Et je ne suis même pas sûr d'ailleurs qu'il y ait un argument politique qui peut fonctionner tant, enfin, je vais le dire de manière aussi un peu vulgaire, si je reprends les termes de Patrick Garcia, qui travaille sur ces questions-là. En France, par exemple, la question de la mémoire en histoire, c'est une variable d'ajustement. C'est pas ça qui va faire changer le sens d'une élection, ni va rendre populaire, ou plus populaire, ou moins populaire, un président de la République. Mais ça fait partie de ce répertoire d'action politique qui, au fond, n'a pas beaucoup de conséquences. Si on n'avait pas commémoré la résistance l'année dernière, la panthéonisation des quinquennats résistants, l'histoire de France n'aurait pas été changée. Alors que sur d'autres points, l'action d'un gouvernement peut changer le réel. Bon. Donc voilà, il y a aussi ce cynisme-là chez les politiques. Je ne sais pas si vous avez entendu François Hollande parler d'histoire à la fabrique de l'histoire. Quand même. Nous avons quand même un président qui se rend un lundi matin à France Culture pour parler pendant une heure d'histoire, et pas d'histoire de France. Il parle un peu de Saint-Louis, Henri IV, à la fin. Il parle pendant 3 quarts d'heure d'épistémologie historique, de régime d'historicité, de mémoire, de la place de l'histoire. C'est ce que je pourrais faire aujourd'hui, ou d'autres de l'IHTP. C'est quand même assez fascinant. Vous imaginez Obama parler d'un régime d'historicité? Obama, il est dans une vision, justement, si on reprend les thèses d'Hartog, Obama, il est dans la tradition futuriste, c'est-à-dire il regarde droit devant, il va vers l'avenir, bon, en radio ou pas radio, mais en tous les cas de son pays. En France, on est, paf, on est planté sur le présent, et donc on regarde en arrière. Enfin, bon. Je le dis avec mes mots, hein. Même si je suis d'une assemblée scientifique, bon, voilà, c'est...
Bah, du coup, moi, j'ai une question. Si tout le monde n'est pas face au passé, donc, enfin, c'est plus une vision française, enfin, française, européenne. Si on voit ce qui se passe en Chine ou en Inde, ou même Obama qui regarde vers le futur, est-ce que c'est pas si, enfin, cette position-là, elle n'est pas si universaliste?
Alors, c'est aussi une bonne remarque. En fait, ce que je dis là, c'est que la France est peut-être un peu plus que les autres dans cette injonction mémorielle. D'ailleurs, je le dis dans le livre, j'explique même de façon avec des éléments bon concrets, historiques, que le premier pays à avoir été contraint d'une politique du souvenir, ce qu'on appelle une Geschichtspolitik, enfin une politique du passé, bon, avec beaucoup de débats, de controverses et autres, c'était l'Allemagne. La France a été le pays qui est venu juste après, contrairement à ce qu'on dit, c'est un pays qui, en gros, dans les années 90, a installé tout un répertoire d'actions de réparation du passé, notamment du passé de Vichy. Donc voilà. Donc la France est aujourd'hui, parmi d'autres pays, regardez la Première Guerre mondiale, la France est parmi les pays européens qui ont investi le plus dans le souvenir de la Première Guerre mondiale. C'est quasiment toute l'Espagne, il y a une commémoration. Bon. Alors maintenant, ça reste, de mon point de vue, quand même un phénomène mondial. C'est-à-dire qu'il y a, en tous les cas, même si ce n'est pas des politiques officielles, il y a, même aux États-Unis, de larges fractions de la société qui réclament ce type de politique. C'est-à-dire, mon idée, ce n'est pas de dire qu'il y a forcément des politiques, mais il y a en tous les cas des débats, des tensions pour réclamer des formes de réparation. Même la question de la réparation, par exemple, elle n'est pas née uniquement avec la question de la réparation de la Shoah, elle est née avec la réparation des torts historiques, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, avec la question des Amérindiens. Et donc ce sont des vieux problèmes, mais qui ont repris une actualité, parce qu'aujourd'hui, il y a une écoute, il y a une attention. Ce sont des problèmes qui peuvent très vite arriver à des échelons internationaux, au niveau de l'ONU, au niveau de la Commission européenne des droits de l'homme. Vous voyez, il y a une montée dans la manière de traiter ces problèmes, qui les rendent à la fois plus difficiles à gérer parfois pour les gouvernements, et qui les rendent aussi beaucoup plus, c'est ce qu'on appelle des problèmes publics, mais qui sont des problèmes publics qui ne sont plus uniquement à des échelles restreintes. Ce sont des problèmes publics internationaux. Un pays qui aujourd'hui dirait je m'en fous de la mémoire, ou je me fous de la mémoire à Shoah, ou je me fous de la commémoration, ne pourrait pas, serait tout de suite si Obama avait dit « Ah non, j'en ai rien à faire de la mémoire mondiale », il aurait été tout de suite sous le feu des critiques. Ça n'aurait rien changé, évidemment, au cours des choses. Mais oui, donc il y a quand même cette préoccupation-là qui est mondiale. Mais il y a des degrés. Je pense, c'est vrai que la France, je ne veux pas tenir un discours élargi, mais est un peu plus, subit peut-être un peu plus que d'autres ce que Hartog et d'autres appellent la crise du futur. Il y a, là ce sont un peu des généralités, je ne vais pas trop m'enfoncer là-dedans.
On y va. Bonjour. Tout d'abord, nous voudrions également remercier les organisateurs de nous avoir conviés à présenter cet ouvrage. L'ouvrage est assez différent de celui que vient de présenter Henri Rousseau, puisque. Alors d'une part, il s'agit d'un ouvrage de sciences politiques, hein, même si on va le voir, on a un petit peu empiété sur le terrain d'historien par moment en travaillant sur les programmes politiques. L'autre différence, c'est que c'est un ouvrage collectif, hein, donc on a donc que Karim Fertig, Nicolas Buet et moi avons coordonné. Donc on peut peut-être se présenter en deux mots. Donc moi, Mathieu Schkorn, je suis maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Paris 8 depuis 3 ans maintenant. Karim, travaille encore au centre Georg Simmel jusque fin août et, on a le droit de le dire, vient d'être élu maître de conférence à l'Université de Strasbourg, donc pour la rentrée septembre. Et donc Nicolas Buet est professeur de sciences politiques à l'Université d'Artois, après avoir enseigné plusieurs années à l'Université de Nice. Je te laisse du coup commencer sur la présentation de l'ouvrage lui-même.
D'accord. Alors, merci. Je suis désolé d'être arrivé un peu en retard. J'avais un entretien à réaliser dans le cadre d'une autre recherche. Donc il y aura, avec le livre précédent, il y aura aussi un point commun dont tu parleras à un moment, ce sera le Chili. Effectivement, il s'agit d'abord d'un ouvrage collectif, et donc pour le présenter, je pense que peut-être la meilleure entrée, c'est d'arriver un peu sur les questionnements d'ensemble autour desquels on s'est mobilisé. On s'est mobilisé d'abord dans le cadre de ce qu'on appelle une section thématique, donc une forme de petite journée d'études au sein du congrès de l'Association française de sciences politiques en 2011, et puis ensuite il y a eu des discussions autour qui ont mobilisé une quinzaine de personnes au total. Finalement, le mot d'ordre qu'on s'était donné dans le cadre de ces discussions et dans le cadre de ces de ce livre. Finalement, c'est formulé de manière très, très large, ouvrir la boîte noire des programmes politiques. Ouvrir la boîte noire des programmes politiques, c'est-à-dire leur poser des questions que peut-être dans la manière dont la science politique contemporaine les traitait, on ne se posait pas, ou en tout cas pas assez, à notre point de vue. Alors, le premier questionnement qui découle de ce mot d'ordre, en fait, hein, ouvrir la boîte noire des programmes, c'est de reprendre le programme comme une forme de technologie politique et de s'interroger sur l'histoire de cette technologie. C'est-à-dire que notre premier pas, d'une certaine manière, a été d'inscrire notre recherche dans une socio-histoire des formes de la démocratie et des formes du vote. En analysant donc cet objet programme qui n'avait pas encore fait l'objet d'une réflexion sur finalement d'où il venait, d'où est-ce que ça vient un programme politique, comment est-ce que le programme politique devient une forme incontournable dans la compétition politique, puisque tous les candidats, tous les partis doivent avoir un programme, doivent avoir un seul programme aussi, comment est-ce que cette institution programme qui donc a un début dans l'histoire, si on veut, se transforme également dans le temps. Comment elle se transforme aussi à travers les apprentissages que les acteurs en font au fur et à mesure des périodes. Donc, et ces apprentissages qui font que le programme se naturalise mais qu'il se déplace quand même. Donc ça, c'est d'une certaine manière la première question, la question sur la genèse. Ensuite, il y a deux autres axes d'interrogation qui portaient plutôt sur des questions de fabrication du texte et sur la question de ses significations. Alors, pour expliquer ça, je vais d'abord revenir peut-être brièvement sur c'est quoi les programmes dominants en sciences politiques en matière d'analyse des programmes. On a d'un côté une forme de sociologie de doctrine, ou plutôt d'histoire doctrinale des partis politiques où on décrit les doctrines de manière parfois impressionniste. Et puis de l'autre côté, il y a tout un programme assez puissant qui s'est installé en Europe et qui les analyse de manière statistique. Donc on code les programmes ces programmes, s'en sert pour positionner les partis politiques en fonction de différents enjeux ou pour les positionner sur un axe droite-gauche. Et donc le programme en question, donc qui s'appelle le Comparative Manifesto Project, donc qui fait bien sûr suite à d'autres travaux qui avaient préexisté, il a commencé en 1979, il existe encore aujourd'hui sous un autre nom, et il prend en charge tout un ensemble de pays dans lesquels on va coder de manière systématique les programmes. Or, pour nous, il y avait deux points, au moins deux, qui étaient problématiques, ou relativement problématiques dans cette forme de recherche. D'abord, le codage s'applique à des textes qui sont écrits. Alors, forcément, donc on prend les textes qui sont écrits et puis on encode les propositions. Et donc, on ne prend pas en considération les conditions sociales de fabrication et de diffusion de ces documents. Et donc, nous, notre idée, c'était plutôt de déplacer le regard vers les activités qui produisent ou vers les activités sociales qu'un programme permet. La sociologie, nous a-t-il semblé, pouvait gagner à se pencher finalement sur les acteurs de la production des programmes. On pourrait faire des programmes, ou on pouvait faire, ou notre hypothèse, notre pari, c'est qu'on pouvait faire des programmes, un observatoire du fonctionnement des partis, des transformations du militantisme aussi, d'analyser les formes de la division partisane du travail, qu'est-ce que c'est un intellectuel du parti qui participe à l'écriture d'un programme, d'analyser également la manière dont les savoirs de gouvernement sont investis, utilisés dans la production de ces textes, et puis de décrire finalement les différentes catégories de personnel, de militants qui sont impliqués dans la production et dans la mise en circulation de ces textes. Et donc, finalement, c'est une sociologie d'activités concrètes qui ont lieu autour du programme que le livre ou essaie de promouvoir. Négocier, marchander aussi des postes, écrire, amender, utiliser, critiquer, vendre, distribuer, discuter. Donc tout ce que va pouvoir permettre un programme politique à partir du moment où on ne considère pas que le programme c'est simplement un texte, mais où on se dit finalement le programme c'est une activité sociale, où ça permet des activités sociales. Ensuite, le deuxième élément, là je vais aller un peu vite là-dessus, c'est de dire, finalement, le codage suppose que le sens du texte, il est fixé. C'est-à-dire qu'on va coder, donc on va pouvoir positionner un parti sur l'axe droite-gauche, ou positionner sa position, ou positionner l'opinion du parti en fonction de tel ou tel enjeu, que pense le Parti socialiste de l'environnement en 1988. Mais ça suppose bien que le texte écrit, il a une signification qu'on pourrait arrêter au moment de l'écriture. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, cette signification du programme, elle ne s'arrête pas au moment où il est écrit et au moment où il est diffusé. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de gens qui vont déplacer constamment ces significations, qui vont l'interpréter, qui vont le commenter de manière plus ou moins officielle. Et ces commentateurs, ça ne va pas forcément être des hommes politiques ou les porte-parole du parti, mais ce peuvent être des gens qui vont chiffrer les programmes, qui vont être des journalistes, etc. Donc c'est de regarder un peu la question, c'est finalement comment se produisent les significations du programme et comment elles se déplacent. C'est ça en fait qui nous a fait avancer dans la voie de quelque chose qui est une sociologie des idées politiques, et je vais laisser Mathieu présenter cette dimension.
Ok, comme l'a dit Karim, le projet du livre il était un peu né d'un double constat. Premièrement, les programmes politiques sont aujourd'hui un objet plutôt délaissé par la science politique française, en tous les cas. Et deuxièmement, quand ils sont abordés, ils sont en général uniquement abordés sous la forme du produit fini, c'est-à-dire qu'on prend le programme, le texte, endossé par un parti ou par un candidat, sans s'interroger véritablement ni en amont sur comment il a été produit, comment il a été fabriqué, par qui, etc., ni en aval sur ses usages, qui lit le programme, qui le mobilise, qui le brandit, comme l'a résumé Karim. Alors, ce désintérêt pour les programmes politiques au sein de la science politique française n'est pas totalement étranger aux transformations qu'a connues la discipline pendant les dernières décennies, et notamment au tournant sociologique et socio-historique qu'a connu la science politique française dans les années 80 et 90, qui parfois c'est par souci de s'autonomiser d'approches plus traditionnelles, plus juridiques, la science politique s'est traduit aussi par a mis l'accent sur les dimensions, j'ai envie de dire, matérielles de l'activité politique, en insistant sur le fait que la politique c'est pas que, à juste titre, c'est pas que des batailles d'idées, c'est pas que des visions du monde qui s'affrontent, mais c'est aussi des ressources à mobiliser, des militants à réunir, etc., etc. Ce qui explique en partie effectivement un peu ce désintérêt qu'a pu avoir la discipline pour les dimensions symboliques, idéologiques, etc. Alors il y avait quand même un certain nombre de travaux récents dans la science politique française, de sociologie politique ou de socio-histoire, qui croisaient, si j'ose dire, la question des programmes politiques sans la mettre au cœur de leur questionnement et sur lesquels on a pu s'appuyer dans l'ouvrage pour travailler. Donc il y a eu tous les travaux consacrés à l'histoire, à la socio-histoire du vote, soit travaux d'Alain Garrigou, d'Yves Deloye, d'Olivier Hill, etc. Il y a aussi toute une série qui pose la question, qui croise la question des programmes en lien avec la question de la construction des électorats, notamment. Il y a eu tout le développement de la sociologie des intellectuels, alors notamment d'inspiration bourdieusienne, parallèlement à celle-ci, ou en lien avec celle-ci, des travaux consacrés au think tank, au club de réflexion politique, qui remettaient au premier plan cette dimension symbolique de l'activité politique. Il y a aussi eu des travaux de sociologie de l'action publique qui sont intéressés à la mise en œuvre des programmes politiques. Par ailleurs, le projet qu'on avait dans l'ouvrage rejoignait aussi le développement plus récent dans la science politique française de ce qu'on a souvent appelé une histoire sociale des idées politiques, hein, c'est-à-dire une histoire des idées politiques qui entendent se démarquer de l'histoire un peu traditionnelle des idées, donc souvent une histoire purement interne, centrée sur des grands auteurs de la tradition philosophique, hein, pour justement mettre l'accent sur les conditions historiques et sociales de production des textes, sur leur circulation, sur les formes sociales de leurs appropriations. Donc pour ce qui est de la science politique française, hein, parmi les personnes qui étaient qui ont mis en avant ce mot d'ordre d'une histoire sociale des idées politiques, il y a notamment Frédéric Matonti qui contribue à l'ouvrage, il y a Bernard Pudal, hein, qui travaille ici au CSU. Voilà, on pouvait aussi s'appuyer, il y avait sur quelques travaux pionniers d'historiens, je pense par exemple là vraiment centré sur les programmes politiques, hein, je pense notamment au travail de Claire Andrieux sur le programme du Conseil national de la Résistance. Et puis les travaux d'Antoine Pro, mais ça on va y revenir puisque on a un peu pris sa suite dans notre chapitre. Ouvrir la boîte noire des programmes, qu'est-ce que ça voulait dire concrètement? Les traiter comme des actes de langage, pour prendre une autre expression empruntée à Austin, au philosophe du langage Austin. Ça voulait dire d'abord circonscrire le contexte pertinent pour étudier ces programmes et pour étudier les significations qui leur sont attachées. Alors ce contexte, hein, qui selon les contributions de l'ouvrage peut aller du plus local, hein, c'est par exemple le cas du chapitre 3 qui est de Damien Beaune, qui est consacré à l'étude d'un conseil municipal pour enfants, où on fait écrire aux enfants un programme politique, hein, où là le contexte se réduit à une scène, si j'ose dire, sociale particulière, jusqu'à des contextes beaucoup plus vastes, hein, beaucoup plus étendus. Par exemple, le chapitre, hein, écrit par Camilla Gutiérrez et Paola Diaz sur le programme de transition démocratique au Chili, qui, pour rendre compte de l'écriture, hein, de ce programme de transition démocratique, hein, est obligé de le resituer dans l'ensemble du processus de transition démocratique qu'a connu le Chili suite au départ de Pinochet et des transformations associées de la société chilienne. Voilà, donc ça supposait d'une part de circonscrire le contexte pertinent, hein, pour rendre compte de ces programmes et de leur signification, de leurs usages. Ça impliquait aussi de se montrer attentif à ce qui se joue dans l'écriture du programme lui-même, hein, ce que font les auteurs, les contributeurs des programmes quand ils contribuent à ces programmes, sachant que ce qui revient dans beaucoup d'études, hein, c'est que souvent derrière ce qui peut apparaître comme des débats d'idées se jouent aussi d'autres choses, hein, des places, des candidatures, des sphères de pouvoir qui se partagent, hein, par exemple le chapitre de Frédéric Matonti sur l'écriture du programme commun de la gauche dans les années 70, hein, montre bien que derrière des négociations en apparence purement idéologiques autour du rapport à l'URSS, de la question de la dictature du prolétariat, etc., se joue aussi le périmètre de cet accord, hein, entre le Parti socialiste et le Parti communiste français. Donc ouvrir cette boîte noire des programmes, ça impliquait aussi de se montrer attentif à la réception de ces programmes, hein, à leurs usages, donc à se demander à côté du texte qu'un parti peut endosser comme son programme politique, ce qui en est fait concrètement, donc comment, qui lit ces programmes, qui les utilise, comment est-ce qu'ils sont aussi j'ai envie de dire retraduit, puisqu'à partir du programme, hein, souvent sont produits toute une série de textes secondaires, des affiches, des tracts, des discours de candidats, qui sont souvent les médiations à travers lesquelles, hein, les électeurs ou les citoyens ont accès ou ont connaissance d'un programme politique, avec toute une série de déplacements aussi, hein, qui s'opèrent au fur et à mesure de la production de ces textes secondaires. Voilà, cette réception pouvait aussi être étudiée au niveau local, hein. Il y a plusieurs chapitres qui s'intéressent aux réappropriations locales de programmes nationaux, hein. Par exemple, le chapitre de Martial Cavatz sur les usages par les élus socialistes du Doubs des programmes économiques nationaux du Parti socialiste, ou le travail de Nicolas Buet sur les usages du programme commun par les militants à Douai, dans les années 70. Voilà, une autre question qui se posait évidemment pour ces travaux, hein, c'était de la question des sources, hein, et sachant que bah, là, la politique a été un peu de faire feu de tout bois, si j'ose dire, hein, donc beaucoup de chapitres, hein, s'appuient sur un travail d'archives, hein, sur des archives, mais voilà, on a aussi des contributions qui sont plus ethnographiques, hein, c'est le cas du chapitre de Damien Beaune sur le Conseil municipal pour enfants, des chapitres qui s'appuient davantage sur des entretiens ou qui croisent entretiens et archives. Par exemple. Voilà, sur cette base, l'ouvrage s'organise en trois parties. Donc il y a une première partie qui est un peu plus historique, bon, qui reste un petit peu programmatique, hein, dans sa forme, puisque son ambition c'était de revenir, de s'interroger en tout cas sur la genèse historique, hein, de ce qu'on a du coup appelé un genre programmatique, avec l'idée que bah, progressivement s'autonomise à un type d'écrit particulier que sont les programmes politiques avec leurs codes, avec leurs règles, etc. Donc l'ambition de cette première partie, hein, c'était de revenir sur cette genèse historique et sur l'institutionnalisation de ce genre programmatique avec la constitution aussi presque d'un canon programmatique, hein, d'une mémoire avec quelques grands programmes de référence, hein, que ce soit le programme de Belleville, de Gambetta, le programme du Front Populaire, le programme commun de la gauche dans les années 60, qui sont inséparables, hein, par ailleurs, effectivement, de la construction d'une mémoire partisane, hein, pour les parties en question. Voilà, cette première partie, hein, il y a trois chapitres dans cette première partie, évidemment, elle fait essentiellement poser des pistes ou poser des questions, hein, puisque ce sera un programme de recherche à part entière. Il y a trois chapitres dedans, hein, le chapitre que Karim et moi avons écrit qui porte sur qui est un travail sur les professions de foi des députés français, donc entre 1881 et 1919, chapitre de d'autres dont on vit le Gerbeau sur la réception du programme de Belleville de Gambetta, et le chapitre de Damien Beaune sur le conseil municipal pour enfants, alors qui est là moins historique, hein, mais qu'on a mis dans cette partie puisqu'il s'agissait de voir aussi non seulement comment le genre programmatique s'institutionnalise historiquement, mais comment est-ce qu'il se reproduit, si j'ose dire. Donc là, il s'agissait de voir, là, au niveau de la socialisation politique d'enfants, en l'occurrence, comment est-ce que les codes liés à cet objet programme, hein, sont appropriés, incorporés, etc. Voilà, alors je peux dire quelques mots du chapitre qu'on a écrit avec Karim, puisqu'il nous concerne plus directement. Donc là, l'idée dans ce chapitre, c'était justement de revenir sur l'institutionnalisation de ce genre programmatique, en dépouillant en comparant, hein, au fil du temps les professions de foi des députés français. Donc on a pris trois élections parce qu'on pouvait pas, s'il fallait circonscrire l'objet. On a pris trois élections, donc qui sont les élections législatives de 1881, 1906 et 1919, et on s'est centré sur trois départements qui sont départements de la Seine, du Nord et de la Vendée. Alors l'idée, en gros, hein, pour dire les choses très vite, c'était de voir comment est-ce que les professions de foi, ces députés, se transformaient à mesure que se transforment, hein, les marchés politiques nationaux, et notamment que se structurent des partis politiques nationaux. Donc alors la source sur laquelle on s'est appuyé, qui est une source bien connue des historiens, hein, c'est ce qu'on appelle souvent le barodé, c'est-à-dire le recueil que constitue l'Assemblée nationale des professions de foi des députés élus. Alors par ailleurs, c'est sur lequel on peut revenir, hein. Du coup, on travaille sur les professions de foi des élus et non pas de ceux qui des perdants, si j'ose dire, enfin de ceux qui ont perdu les élections. Alors si je mentionne la source là, c'est aussi parce que d'une certaine façon, c'est pas seulement une source, mais c'était aussi presque un objet pour nous. Et d'ailleurs, on a l'ambition de continuer à travailler un peu dessus, puisque l'institution de ce recueil par l'Assemblée nationale participe de l'institutionnalisation cet objet, de ce genre programmatique, hein, puisque l'idée même du recueil, hein, était venue des députés de l'extrême gauche de la Chambre, qui voulaient par la mise en place d'un recueil systématique des programmes, hein, d'une part lier davantage les candidats aux promesses qu'ils auraient pu faire au cours des campagnes, et d'autre part, l'idée aussi chez eux, c'était parce qu'il y avait aussi au début, hein, dans les premiers recueils, non seulement il y avait les professions de foi, mais il y avait une synthèse qui était réalisée par une commission à l'Assemblée nationale, hein, et l'idée c'était, en faisant la synthèse des programmes, de restituer ce qui était la volonté générale, nationale, etc. C'est un point sur lequel est par ailleurs aussi revenu Pierre Rosanvallon dans ses travaux sur l'histoire de la souveraineté en France. Et justement, ce qu'on voit bien dans le rapport de la Commission, hein, lors du premier recueil donc, qui est fait à l'occasion en 1880, c'est qu'à l'époque, recueillir les professions de foi est quelque chose qui ne va pas de soi, puis ça ne va pas de soi, même pour les candidats, d'avoir toujours une profession de foi. Et il y a certaines circonscriptions pour lesquelles, dans ce premier recueil, on dit que le candidat était incapable de nous fournir une profession de foi quelconque. Et puis surtout, ce qu'on constate, c'est que ce qu'est une profession de foi ne va pas totalement de soi. C'est-à-dire que, selon les cas, les candidats ont fourni un tract, une affiche, une lettre envoyée aux électeurs. Donc, sur le point de vue ne serait-ce que formel, hein, on a une diversité formelle très grande au début de la période. Je vais aller très vite, hein, mais les choses sont très différentes à la fin, au moment où on a des grands partis nationaux qui sont structurés, la SFIO, le Parti radical, etc., où, de plus en plus, hein, ces professions de foi des députés tendent à devenir de simples déclinaisons locales de programmes nationaux. Voilà. Donc voilà pour le deux mots sur la première partie. La deuxième partie du livre, hein, touche vraiment au cœur du projet qu'on avait dans l'ouvrage, hein, puisque donc les différentes professions de foi de cette deuxième partie, hein, se centrent sur la fabrication des programmes politiques et sur leurs usages. Voilà, donc on a des études de cas assez différentes, alors sur lesquelles on a beaucoup travaillé avec les auteurs, hein, pour essayer de donner une unité au moins thématique à l'ouvrage, hein, mais on a des cas très différents puisque on a un chapitre qui porte sur le Chili, un chapitre qui porte sur la thématique européenne dans les programmes du PCF français, un autre chapitre qui porte sur qui est une étude comparative sur les élections législatives en France et en Grande-Bretagne par Clément Desrumeau. Voilà, donc il y a différentes. On peut trouver quelques thématiques, hein, qui reviennent, ou quelques faits stylisés qui reviennent. Hein, par exemple, plusieurs chapitres reviennent sur la question des programmes interpartisans, puisqu'on a aussi les programmes des partis, mais on a aussi les programmes interpartisans, notamment qui peuvent notamment être négociés entre les deux tours. Hein, c'est le cas du chapitre de Mélanie Pauvros et de Julien Aumiel sur les élections régionales. Dans le Nord-Pas-de-Calais en 2010, hein, où on voit comment derrière la négociation qui montre que la négociation du programme interpartisan entre les Verts et le Parti socialiste en l'occurrence, hein, est inséparable de la distribution des candidats sur les listes communes et des places des candidats sur les listes communes, hein. Un autre thème qui revient dans plusieurs des chapitres, c'est celui de ce que Brigitte Gaetti avait appelé dans une introduction d'un numéro de politique, c'est l'économie des loyautés, c'est-à-dire qui se matérialise ou qui s'organise autour des programmes, hein, à la fois. L'écriture du programme politique, c'est une manière de publiciser des loyautés qui s'expriment sous la forme de fidélité à des valeurs, mais c'est aussi quelque chose qui peut être le lieu de conflits de loyauté, hein, notamment entre des militants qui vont arbitrer leurs conflits entre eux en revendiquant une plus grande fidélité au programme du parti, par exemple, hein, ou c'est une question, cette question de la loyauté, hein, qui peut être mise en avant lors de la mise en œuvre, hein, des programmes politiques, hein, à travers la question de savoir si les élus sont fidèles à leurs promesses, à leurs programmes, ou au contraire les trahissent, etc. Sur la troisième partie, je vais laisser Karim revenir sur la troisième partie,
oui,
qui est centrée sur les programmes de la gauche.
Oui, sur les programmes de la gauche, et notamment sur le programme commun des années 1970. Alors, notamment le travail donc sur le programme commun au Parti communiste, au Parti socialiste, au Parti radical, d'une certaine manière, apparaissait comme une forme de pari. C'est-à-dire, il y avait déjà énormément de littérature qui était consacrée à cette question, une littérature qui était à la fois abondante et qui était aussi exigeante. Lorsque le livre était en préparation, L'Union sans unité, donc l'ouvrage écrit par Daniel, ou dirigé par Daniel Tartakovsky et Alain Bergougnou, n'était pas encore sorti, mais il est sorti donc lorsque le livre était encore en phase de fabrication, si on veut, le nôtre. Et le fait d'écrire ou de consacrer des réflexions à ce programme commun, c'est une forme de pari. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de plus que ce qui a déjà été dit ou quelque chose d'autre à travers finalement les angles d'analyse qui étaient les nôtres? Alors à cette troisième partie, je vais le dire brièvement, il y a deux politistes et deux historiens qui ont contribué. Les politistes sont Frédéric Matonti et Nicolas Buet, et les historiens sont Mathieu Tracol et Marcial Cavatz. Ce que les contributions finalement ont en commun, c'est de réfléchir à des formes de dynamique et de se dire bon, qu'est-ce que c'est le programme commun lorsque on le regarde dans la manière dont on a négocié ces clauses. Et donc de regarder finalement les archives, notamment du Parti communiste, et de voir qui étaient les négociateurs, qu'est-ce qu'ils négociaient, quelles étaient les formes finalement d'excellence qu'ils mettaient en jeu dans leurs négociations du programme, comment aussi dans ces négociations il y avait des formes, des manières d'impliquer les militants, d'impliquer le parti, d'impliquer les différents professionnels du parti dans sa production pour débroussailler ou déminer le sujet. Il y avait dans les autres contributions des réflexions sur finalement qu'est-ce que ça fait d'avoir participé à la production du programme commun ou des programmes du Parti Socialiste pour ceux qui se sont érigés comme experts d'un certain domaine. Et donc, qu'est-ce qu'ils font, ces experts, lorsque, en 1981, la gauche arrive au pouvoir et qu'ils arrivent dans les ministères? Ça, c'est quelque chose que Mathieu Tracol met en évidence. Enfin, Nicolas Buet, lui, dans sa contribution, il va finalement s'intéresser à quelque chose qui est intéressant pour un programme, c'est qu'est-ce qu'on en fait quand on est militant? Qu'est-ce qu'on fait d'un texte? Il y a quand même une dimension théorique lorsqu'on est sur le terrain, à Calais. Donc, comment les militants s'approprient cet objet? Comment ils l'expliquent? Comment ils vont voir les ouvriers ou les habitants de Calais avec leur programme? Et comment ils gèrent au local la rupture du programme commun? Nicolas Buet met en évidence la manière dont, en particulier, les communistes vont chercher à imputer, finalement, enfin les socialistes aussi, mais où, en particulier les communistes vont chercher à imputer la rupture au Parti socialiste et montrer que eux restent des militants de la gauche unie donc chercher à montrer par là que le parti, enfin chercher à faire en sorte que le Parti socialiste vienne enrichir le dictionnaire des girouettes. Donc c'est l'économie des loyautés à la gauche qui est mise en évidence au niveau local, là, dans la contribution de Nicolas Buet. Donc voilà, c'est cette troisième partie qui avait une forme de pari, qui était une forme de pari et qui finalement a pu apporter quelques révisions dans les temporalités, dans les questions des usages concrets, en fait, du texte aussi.
Ben voilà, je vois que l'heure tourne, donc s'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Oui.
J'aimerais évidemment aller entendre votre bateau des historiens, mais j'ai appris que vous aviez aussi travaillé avec des historiens. C'est la question des sources que vous avez utilisées. Par exemple, là, je viens de parler des archives des partis à propos du programme commun. Et est-ce que, parce qu'une autre source évidemment qui est généralement utilisée par les politologues, c'est les témoignages des acteurs, par exemple les négociateurs qui vont vous raconter. Donc, est-ce que vous avez utilisé concurremment certains chapitres? Je m'intéresse peut-être particulièrement à celui dont tu as parlé, là, du programme commun, c'est vos sources. Et est-ce que vous avez trouvé des coïncidences, des écarts notables? Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous a ouvert? Toutes ces archives sont-elles bien tenues? Voilà, des parties, par exemple, du programme commun.
Tu veux répondre ou je commence, c'est du complet.
Ouais.
Ce qui est juste un tout petit peu difficile pour répondre, c'est que la question porte plutôt sur des chapitres qui sont ceux des contributeurs, qui ne sont pas les nôtres, donc on est un peu amené à parler à leur place. Selon les contributions, hein, le matériau mis en avant est plutôt soit archivistique, soit effectivement sur la base d'entretien. Alors le Dans la partie sur programme commun, en fait, le premier chapitre, qui est celui de Frédéric Matonti, qui s'appelle d'ailleurs « La fabrique du programme commun », porte vraiment sur l'écriture. Alors elle l'a fait à partir des archives du PCF, donc à Bobigny, si j'en crois ce qu'elle nous disait, avait justement peu été exploité sous cet angle. Enfin, c'était plutôt effectivement du point de vue du Parti socialiste que cette fabrique avait pu être étudiée. Par ailleurs, Frédéric Matonti a travaillé sur le Parti communiste, donc elle avait des témoignages par ailleurs, mais c'est vrai que le chapitre est quand même surtout centré sur les archives. Par contre, elle a effectivement pu voir sur plusieurs points, notamment sur qui est à l'initiative du programme commun, des désaccords justement entre ce qu'elle a trouvé dans les archives et ce qu'on raconte traditionnellement sur la base des témoignages, justement, effectivement.
Oui, c'est ça. Et j'étais juste en train de penser que dans un autre chapitre consacré au Parti communiste, donc les archives également ont joué un rôle important. Donc dans un chapitre écrit par Nicolas Hazan, les entretiens qu'il a réalisés avec les producteurs finalement des positions européennes du Parti communiste ont permis d'éclairer en fait des éléments que les archives ne permettaient pas d'éclairer. Par exemple, les raisons pour lesquelles les gens s'investissent dans des questions européennes au sein du Parti communiste au sein duquel les questions européennes dans les années 70, en tout cas, ne sont pas des questions extrêmement importantes. Donc ça donne un éclairage finalement un peu différent. Nicolas Bullet, lui aussi, a travaillé sur à la fois des archives et puis sur à base de témoignages. Je me souviens pas qu'il y ait des décalages entre les deux éléments qui mettent en évidence des décalages.
Non, j'ai pas le souvenir non plus, mais souvent les deux matériaux sont pas étudiés de la même façon. Enfin, effectivement, l'archive est des fois plus utilisée pour établir des faits quand les extraits d'entretien, enfin dans le chapitre de Nicolas, sont plus étudiés pour mettre en évidence, par exemple, ces conflits de loyauté ou comment est-ce que, ce qui va être analysé, c'est pourquoi un militant essaye d'expliquer à tout prix que c'était lui qui était le plus fidèle au programme, etc. Quoi. Donc,
Sur la question de manière générale, pas uniquement sur le livre, mais moi j'avais travaillé sur le programme de Bad Godesberg du Parti social-démocrate allemand. Les archives du Parti social-démocrate sont des archives qui sont extrêmement nickel, avec en plus des gens qui, au-delà des archives officielles, gardent leurs documents et les versent ensuite progressivement au parti. Donc il y a un fonds qui est exceptionnel, et j'avais rencontré un certain nombre de personnes qui avaient participé, d'après les archives, aux réunions et aux commissions qui avaient préparé le programme de Bad Godesberg. Alors, l'élément, c'est qu'en fait, surtout à cette distance historique, les gens mélangent tout. C'est-à-dire, c'est un événement pour eux qui, à l'époque, n'était pas véritablement vécu comme capital, qui est devenu un élément important par la suite. Quand ils parlent de ce qu'ils ont fait, en fait, ils parlent en gros de n'importe quel congrès, de la préparation ou de la participation à une commission, et on ne retrouve pas du tout les éléments qu'on voit dans les archives et les prises de position qu'ils ont dans les archives, dans leurs témoignages, simplement parce que ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement important pour eux à ce moment-là. Et ça se noie en fait dans une vie politique qui a ensuite eu 50 ans pour se développer.
Non, je sais pas. Effectivement, moi, je rebondissais sur la remarque de Grimm. Donc, c'est pas dans l'ouvrage, mais moi, j'avais travaillé un moment sur quelque chose qui a priori pas un programme, mais qui avait un peu été perçu comme tel, qui était le rapport sur la France de l'an 2000, qui est un rapport remis par une commission du plan, la commission sur la France de l'an 2000, qui était présidée par Alain Minc, qui avait été remis en novembre 94. Et qui avait été interprété en tout cas comme le programme de campagne officieux d'Édouard Balladur, qui à l'époque n'était pas officiellement candidat présidentiel, puisque c'était Jacques Chirac qui était le candidat déclaré du RPR, mais de plus en plus pressenti, quoi. Et effectivement, moi, à ce moment-là, j'avais pu travailler sur les archives, parce que les archives avaient été déposées au plan, et contrairement d'ailleurs à d'autres archives du plan sur la période 90-95, celle-ci était relativement bien tenue, puisqu'on avait plusieurs cartons avec des chemises bien faites sur chacune des séances où la commission s'était réunie et sur les matériaux sur lesquels elle s'est appuyée, et une partie de la correspondance interne, et puis par ailleurs avec des entretiens avec plusieurs des acteurs du plan à l'époque, etc. Et effectivement, moi, alors j'avais pas trouver de contradictions entre ce qu'on pourrait trouver dans les archives et les entretiens, mais par contre, effectivement, j'avais eu des récits divergents, si j'ose dire, en entretien, qui m'avaient permis de travailler, à la fois les significations qui avaient pu être associées à ce travail par les différents membres de la commission, et puis sans doute aussi la manière dont ils souhaitaient rétrospectivement que ce soit perçu. Parce qu'effectivement, certains m'avaient dit d'emblée, c'était le cas du secrétaire général du plan de l'époque, on avait été saisi par Édouard Balladur parce qu'il avait besoin d'un programme pour la présidentielle. J'avais pas le même récit du côté du commissaire adjoint de l'époque, par exemple, et a fortiori du côté de membres de la commission qui, par ailleurs, n'avaient sans doute pas été sollicités de cette raison. Donc alors, voilà, sachant que s'ajoutait effectivement de la même manière le fait que j'arrivais 15 ans après et que, non 10 ans après, mais un peu plus de 10 ans après, quoi, et que les mémoires sont aussi brouillées, et puis surtout que du coup les gens nous le racontent en fonction d'enjeux qui sont des enjeux présents 10 ans après, de la manière dont ils souhaitent que ce soit perçu, quoi. Et 10 ans après, c'est vrai que souvent on préfère que ce soit quand même perçu aussi comme une œuvre intellectuelle ou quelque chose comme ça, comme un simple enjeu de compétition électorale, quoi.
Oui, votre propre article sur les proclamations sur les Nordef, ça rappelle l'article d'Antoine Pro. Comment vous êtes positionné? Est-ce que vous êtes prolongé? Est-ce que vous avez changé de méthode? Qui a un article célébrissime sur le vocabulaire des proclamations électorales?
Alors effectivement, on est un peu arrivé, j'irais, derrière lui, si j'ose dire. Enfin, surtout parce qu'on s'est appuyé sur la même source, hein, qui est le Barodet. Donc il y a une partie. La périodisation n'est pas tout à fait la même. Donc, oui, c'est ça. En fait, c'est effectivement du coup pas exactement enfin, à part pour le début, je pense qu'il faudrait regarder exactement les mêmes années. Après, la différence, c'est que je pense que la question n'était pas la même, hein, puisque chez Antoine Pro, l'idée, si mes souvenirs sont exacts, hein, sur des périodes où le partage avant la Ve République entre groupes recoupait pas forcément de manière aussi stricte les partis, etc., d'identifier des langages politiques, différents langages politiques plus ou moins cohérents qui pouvaient se partager au sein de la Chambre. Et puis, alors que là, il s'agissait vraiment de voir comment ce genre programmatique s'institutionnalise, quoi. L'autre différence, effectivement, là, elle était de méthode, c'est que l'article d'Antoine Pro, c'est aussi, s'il est classique, c'est aussi que c'est un travaux pionnier, parce que c'est le premier qui utilise, enfin, à ma connaissance, des techniques d'analyse lexicographique, statistique, etc. Ce que là, nous, on ne fait pas, en l'occurrence. Hein, c'est un travail plus qualitatif, centré, du coup, vraiment sur le gros de l'article, hein, si vous lisez, c'est vraiment aussi beaucoup centré sur la forme. Enfin, on étudie comment se présentent ces professions de foi, notamment au début où c'est très divers, où ce qui revient souvent, c'est le modèle de la lettre, même quand ce n'est pas formellement une lettre envoyée aux électeurs. Ça commence par « chers électeurs », ça finit par une formule de politesse, etc. De ce point de vue, sur le plan méthodologique, j'ai envie de dire, j'en sais rien, peut-être que tu vas me dire non, pas du tout, ce que je veux dire, c'est que finalement, plus qu'au travail d'Antoine Pro, moi je repensais en commentant ces professions de foi à ce que Garrigou avait essayé de faire sur les élections de 1848, en montrant comment les bulletins étaient écrits, que certains justement faisaient ça comme une lettre, etc., enfin que le bulletin n'était pas standardisé comme ça. Moi, finalement, c'est plus ça que j'avais comme modèle, même si l'objet n'est pas le même que ce qu'a fait Antoine Pro, quoi. Même si effectivement il y a une partie des sources qu'on recoupe, ce qu'on mentionne au début de l'article, bien évidemment, quoi.
Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris une période un peu longue, puisque on va de 1800, enfin on a pris des périodes de comparaison, des points de comparaison éloignés, puisque ça va de 1881 à 1919, pour voir comment finalement cette forme se standardise et comment des efforts en fait qui sont réalisés, des investissements qui sont réalisés par les centrales partisanes pour imposer des formes de texte à leur candidat. D'une certaine manière, ce que montre le chapitre, c'est une forme de basculement où, dans un premier temps, dans les particulièrement dans les circonscriptions urbaines, on a des programmes qui se revendiquent de comités électeurs, et donc le candidat va dire « j'accepte votre programme » ou « le programme s'achève par vu par le candidat, accepté par le candidat », et où on raconte les dizaines de personnes qui se sont réunies pour faire le programme, et à la fin, on a le programme de la SFIO qui est simplement décliné localement en fonction d'enjeux locaux, mais c'est quand même une base nationale qui devient très standardisée, qui devient du coup le programme, le texte de la profession de foi.
Parce que c'est dans les usages, c'est très intéressant votre approche. Est-ce que dans les usages, là, je vais parler plus au contraire aux citoyens, est-ce qu'il y a l'usage à proprement parler de l'action politique, c'est-à-dire ce qui intéresse les lecteurs et qui va être à mon avis un enjeu dans quelques mois? C'est la différence entre les intentions et la politique effective. Est-ce qu'il y a une méthode par rapport à ce que vous faites pour prendre en compte cette dimension-là? Vous la prenez ou est-ce que c'est un tout autre sujet?
Vous voulez dire le désaccord entre ce que...
La mise en place du programme.
Ah oui, la mise en œuvre, quoi. Une fois élu, quoi, si je veux dire. Est-ce que les gens trahissent leurs promesses, quoi. Ou les appliquent. Enfin, ou c'est ça.
Il y a le chapitre. En fait, il y a peu de chapitres qui se centrent sur cette question, sauf celui de Mathieu Tracol, pour le coup, où il montre bien comment il y a finalement, au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir, et notamment autour du ministère du Travail ou au sein du ministère du Travail, un passage en fait d'experts programmatiques vers l'action publique, et là ils vont faire un ensemble de travaux. Il y a d'autres politistes qui ont montré un peu le même phénomène, notamment sur le logement. Philippe Zitoun avait montré la même chose, mais c'est vrai que l'essentiel des contributions ne portent pas vraiment sur l'application des programmes.
Mais voilà, mais le chapitre de Mathieu Tracol, effectivement, qui est le dernier, enfin avant la postface de Michel Auferlé, c'est effectivement centré sur les 110 propositions et surtout sur la question du travail, donc sur l'écriture après des lois Auroux, en fait, sur le travail. Et il montre comment, par rapport aux 110 propositions, il y a des renégociations qui se font en cabinet et puis au sein du ministère du Travail, qui sont liées aussi au fait que, cette fois-ci, par rapport à... c'est plus les mêmes personnes, ce ne sont plus les rédacteurs du programme qui sont aux manettes, mais ce sont des hauts fonctionnaires du ministère du Travail pour qui les enjeux ne sont pas les mêmes, etc., quoi. Donc... il étudie notamment effectivement comment est-ce que le rapport de force, même au sein du Parti socialiste, est un peu redéfini une fois que des propositions passent de la campagne jusqu'à la haute fonction publique et au ministère du Travail, quoi, grosso modo.